France Musique. Musicopolis.
Janvier 1868, Brême. C'est le grand violoniste et compositeur Joseph Joachim qui est le soliste ce soir à Brême et qui va jouer un nouveau concerto sous la direction de Karl Reintaler. Le succès est au rendez-vous, comme il le sera aussi quelques jours plus tard à Hanovre, puis à Aix-la-Chapelle. Joachim n'a qu'une envie, c'est de le jouer le plus souvent possible. Le Weser Zeitung est très élogieux sur le concerto de Max Bruch que Joachim vient de créer dans sa version définitive. Avec Bruch, lit-on, pas de danger qu'il se perde dans le chaos de l'informe musique du futur. Il utilise sa propre forme avec assurance et grâce à une abondance de beauté harmonique et mélodique, il ne perd jamais le lien avec son public. Le 16 avril 1868, 4 mois après la création par Joachim, Max Bruch écrit au chef d'orchestre Hermann Lévy. Le concerto commence une fabuleuse carrière. Joachim l'a joué à Brême, Aix-la-Chapelle, Hanovre et Bruxelles. Il va le jouer bientôt à Copenhague et au Festival de Cologne à la Pentecôte, ce qui me fait très plaisir. Leopold Auer le fait le 17 à Hambourg au Concert Philharmonique. Ludwig Strauss en mai à Londres à la Société Philharmonique. Ferdinand David à Leipzig au début de la saison prochaine. Leonhardt et Vieuxtemps l'ont commandé. Bref, ça avance brillamment. En janvier 1868, Max Bruch fête ses 30 ans, le 6 janvier, juste le lendemain de la création de son concerto par Joachim. Il a beaucoup travaillé sur cette œuvre et il l'a même remise plusieurs fois sur le métier, puisqu'en effet, elle a déjà été créée une fois, 2 ans plus tôt, le 24 avril 1866. Mais il nous faut remonter à l'été 1864 pour voir le compositeur se mettre à composer l'œuvre. Été 64, donc. Max Bruch a 26 ans. Il a été un compositeur extrêmement précoce. Parmi les plus précoces de l'histoire de la musique, avec Mendelssohn et Korngold, par exemple. Il compose depuis l'âge de 9 ans. Et à 11 ans, il écrivait un septuor dans lequel on reconnaît déjà son style. Et à 14 ans, il a remporté la très convoitée bourse de la Fondation Mozart de Francfort, qui lui permet alors d'étudier avec d'excellents professeurs, notamment Karl Reinecke et Ferdinand Hiller. Hiller est un pianiste, compositeur et chef d'orchestre, un proche de Chopin, de Berlioz, de Mendelssohn. Sur ses conseils, après 4 ans d'études, Bruch va faire un grand voyage à travers l'Allemagne. Il commence par Leipzig, où il rencontre Ferdinand David, le violon solo de l'orchestre du Gewandhaus, créateur du concerto pour violon de Mendelssohn et professeur de Joseph Joachim. Il rencontre aussi Moritz Hauptmann, cantor de Saint-Thomas et professeur au conservatoire. Il est introduit dans ce cercle de musiciens très conservateurs qui s'opposent farouchement à la musique dite du futur, à savoir celle de Liszt et de Wagner. Voilà qui va le marquer. Il visite aussi d'autres villes comme Berlin, Dresde, Vienne et Munich. Il poursuit son éducation, il développe son réseau de connaissances et il compose. À 24 ans, Bruch a déjà composé un opéra, une symphonie, des chœurs, des leaders, de la musique de chambre. En 1863, il est installé à Mannheim, où il obtient un assez bon succès lors des représentations de son opéra La Lorelei, devant un parterre de musiciens, dont Clara Schumann, Anton Rubinstein ou le chef Hermann Levy. Il commence à être connu, au moins dans le milieu musical. Il poursuit son travail de composition avec une scène pour chœur d'hommes, Frithjof, qui va être donnée à Aix-la-Chapelle en novembre 1864. Il a obtenu la permission de Clara Schumann de lui dédier l'œuvre. Grâce à sa grande pièce chorale « Frithjof », la réputation de Max Bruch a commencé à grandir. L'œuvre est donnée dans plusieurs villes d'Allemagne et d'Autriche où elle remporte beaucoup de succès. Les pièces pour chœur sont très à la mode dans les pays germaniques, où les chorales sont nombreuses et où l'on pratique beaucoup la musique vocale d'ensemble. Bruch va s'en faire une sorte de spécialité. Mais à présent, à 26 ans, il lui faut un poste fixe pour pouvoir s'installer dans la vie. Il pose sa candidature, sans succès, dans plusieurs villes. Et il commence à être très inquiet de son futur lorsqu'enfin, il est accepté à Koblenz, une ville sur le Rhin, pas très loin de Bonn. Là, son titre officiel est directeur de l'Institut Royal de Musique et directeur des concerts par souscription de Koblenz. Il est à la tête d'un orchestre de 60 à 70 musiciens et d'un chœur de 150 amateurs. Il dirige tout le répertoire en vogue, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Schumann, Schubert, Brahms et sa propre musique. Il invite son cher professeur Ferdinand Hiller à venir jouer son concerto en fa dièse mineur. Pendant qu'il est en poste à Koblenz, Max Bruch fait entendre encore des pièces pour chœur. La bataille de Salamine et Schöne Hélène, la belle Hélène, avec toujours autant de succès. Mais il lui semble à présent qu'il est temps de passer à autre chose. Pourquoi pas de la musique instrumentale. L'été 1864, Max Bruch s'est mis au travail sur sa nouvelle œuvre instrumentale. En novembre 65, il écrit à son maître Ferdinand Hiller. « Mon concerto pour violon avance lentement. Je ne me sens pas sûr de moi sur ce terrain. Ne pensez-vous pas qu'en fait, c'est très audacieux d'écrire un concerto pour violon ?» Bruch est pianiste et malgré une bonne connaissance des cordes, il doit demander conseil à des amis violonistes. De fait, il lui faut un an et demi pour arriver au bout du concerto et terminer la première version, créée à Koblenz par Otto von Königslöw, le violon solo de l'orchestre du Gürzenich de Cologne et ami de Hiller. On peut s'étonner que Max Bruch, pianiste de formation, soit connu principalement pour ses œuvres pour violon. Le premier concerto, qui nous intéresse aujourd'hui, et aussi 9 autres pièces pour orchestre avec le violon soliste. En fait, Bruch parle du piano en termes plutôt rudes. Cette chose à clavier peu mélodique, ou bien cette ennuyeuse guimbarde. Il écrit à son éditeur qu'il aurait grand désir de pratiquer un immense auto da fé au cours duquel il brûlerait 10 à 20 000 pianos, de sorte que cette épidémie du 19e siècle soit, sinon éradiquée, du moins réduite à des proportions plus gérables. Enfin, plus sérieusement, quand on lui demande pourquoi il a autant écrit pour le violon, il répond « parce que le violon peut chanter une mélodie beaucoup mieux qu'un piano et que la mélodie est l'âme de la musique ». La création du concerto pour violon de Bruch, dans sa première version, laisse le compositeur insatisfait et il se tourne alors vers Joseph Joachim. Celui-ci est considéré comme « the violoniste du siècle ». Encouragé par Mendelssohn, il a donné des interprétations mémorables du concerto de Beethoven, de celui de Mendelssohn, et il en a écrit lui-même qu'il joue partout en Allemagne. Max Bruch entame une longue correspondance avec Joachim au sujet de son concerto pour violon. Ils se voient et ils travaillent ensemble. Bruch s'interroge en particulier sur le mot « concerto ». Est-il justifié alors que le premier mouvement n'est en fait qu'un grand prélude à l'adagio ? « Oui, oui !» répond Joachim. « Le terme est justifié. » Et les deux derniers mouvements, tellement contrastés, conviennent parfaitement au genre du concerto. Ensuite, c'est Ferdinand David, le violon solo de Leipzig, qui révise la partie de violon terminée. Et enfin, vient le moment de la première de la version définitive, c'est Joachim qui tient l'archet cette fois-ci. L'adagio de son concerto, qui fait chanter le violon dans une grande mélodie tellement bienvenue, Bruch écrit un final allegro energico, qui commence avec un thème inspiré des musiques hongroises. Il rappelle le final alla Zingara du concerto opus 11 de Joachim. Mais chez Bruch, la virtuosité époustouflante du violon laisse aussi la place à un grand thème romantique et chantant. Le concerto pour violon de Bruch a eu tellement de succès que le compositeur s'en est mordu les doigts. ne réussissant jamais à convaincre ses interprètes que les deux concertos suivants, ni les autres pièces pour violon et orchestre, étaient au moins aussi réussis. Il n'en a même pas tiré profit, puisqu'il a vendu la partition pour une bouchée de pain à un petit éditeur et qu'il n'a rien touché ensuite. Lorsque sur le tard, en 1920, il a voulu vendre le manuscrit pour s'assurer un petit pécule pour ses vieux jours, le dit manuscrit a disparu aux mains d'amateurs peu scrupuleux et n'a réapparu que dans les années 60. Quoi qu'il en soit, et bien malgré lui, le concerto aura assuré à Bruch de rester connu et joué dans les salles de concert jusqu'à aujourd'hui. Concerto pour violon numéro 1 en sol mineur opus 26 de Max Bruch, Yasha Heifetz au violon avec le nouvel orchestre symphonique de Londres dirigé par Malcolm Sargent. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Charlotte Ledru-Chandès et Françoise Monteil pour les recherches et le site, Éric Boisset pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.